Bonjour, bonsoir, chers auditeurs de Transistor. Nous voilà revenus pour un nouveau numéro d'Un Spectateur. Au programme, justement, deux spectacles. Un spectacle sur lequel nous reviendrons avec Lola, Caroline et Marie. Bonjour les filles.
Bonjour.
Bonjour.
Alora.
Le spectacle de Conrad Cagnoc et Juliette de Beauchamp, ce soir on débusque les Matassins, essai 1, entre parenthèses, titre de travail. Et ensuite, via une chronique faite par notre chère Charlotte sur le Roi Lear, qui a eu lieu au TNP également en février.
Spectacle aujourd'hui, un spectacle donné en Cantor. Ce soir, on débusque les Matassins. Alors, vous pouvez être comme moi, être idiot, avoir lu la première fois les Marcassins sur le magnifique programme imprimé à l'aide de pommes de terre pendant la soirée transassociative, n'est-ce pas ?
Donc, c'est faux.
Une fois ce léger malentendu dissipé, vous pouvez être idiot comme moi et vous demander ce qu'est un Matassin. Je suis allée regarder dans un dictionnaire pour vous. Matassin, nom masculin, de l'italien Mattacino, diminutif péjoratif de matto, qui signifie fou. Existence attestée du terme depuis au moins 1549. Et cela signifie danseur bouffon. J'ai donc été dès le début induite en erreur, puisque je pensais qu'il s'agirait de danse, et en fait, non, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Nous assistons donc à une performance, je crois que c'était le mot du metteur en scène, vous retrouverez ça tout à l'heure dans l'interview, et nous voyons donc sur scène évoluer quatre comédiens danseurs, ça dépend de leur formation, et une structure en bois. Alors c'est d'abord des mikados, ça devient ensuite un meuble Ikea, puis une cabane, puis un bateau. Une fois que je vous ai dit ça, vous n'avez pas compris grand chose, peut-être que nos chroniqueuses pourront vous éclairer. On commence avec Caroline.
Il était un petit spectacle, pirouette, cacahuète. Il était un petit spectacle qui avait un drôle de projet, qui avait un drôle de projet. Des bouts de bois éparpillés, Lego, Mikado, des bouts de bois éparpillés, des acrobates emmaillotés, des acrobates emmaillotés. Une histoire échafaudée, capla, patatras, une histoire échafaudée. En équilibre plus que précaire, en équilibre plus que précaire. Funambule et ATR, kaboum, badaboum, funambule et ATR. De quoi me faire un peu flipper, de quoi me faire un peu flipper. Pantomime d'absurdité, typique, choc à pic, pantomime d'absurdité. Sauf la chanson d'autodafé, chauffe la chanson d'autodafé. On ne sait trop quoi penser, matin, matassin. On ne sait trop quoi penser, faute de comprendre, on peut en rire, faute de comprendre, on peut en rire. Déconstruire et reconstruire, Babel, Babybel, déconstruire et reconstruire, cliché méta, mais bien creusé, cliché méta, mais bien creusé. Le spectacle n'a pas duré, abra, cadabra, le spectacle n'a pas duré, pour tout vous dire, j'ai bien aimé, pour tout vous dire, j'ai bien aimé.
Merci Caroline. Et pour les informations, il y a Lola.
On ne me laissera donc jamais en paix, se demanda intérieurement Lola, assise à 20h37 dans un des fauteuils de la salle Cantor, 5e rangée, 4e siège en partant de la gauche. On lui avait tout fait voir. Un match de boxe interactif avec Donna Juan, une balade poétique sur des textes de Michou Evian, un spectacle déambulatoire sous la houlette du frénétique Dionysos. Ce soir-là, avant même que la pièce ne commence, elle n'était déjà pas très tranquille. Qu'est-ce qu'un matassin, se demandait-elle. Elle se rappelait vaguement qu'il s'agissait d'un danseur bouffon. Mais alors que fait cette structure de bois? Et pourquoi personne ne parle, ni ne danse? Pourquoi est-ce que tout le monde essaie par tous les moyens d'éviter le contact avec le sol? Pourquoi? À 20h38, ma petite voix intérieure, celle qui vous embête quand vous ne pigez rien à un spectacle ou que vous êtes trop plein de considérations métathéâtrales, réintégra mon corps. Pas besoin de se poser de questions, il suffisait de se laisser porter par la magie des acteurs, de la mise en scène, du décor. Ambiance sonore. Frottement de métal sur le sol. La vie des coulisses hante la scène. Je m'imagine un ensemble de tréteaux de foire qu'on désassemble, que l'on redispose. Les acteurs, les matassins donc, vivent de ces tréteaux, qui sont d'une certaine manière une part essentielle du spectacle, qui le définissent et délimitent l'espace de jeu. Le son envahit l'espace, de gauche à droite, s'estompe et réapparaît. C'est ce même son qui régit l'espace scénique, car on ne parle pas avec sa bouche, mais avec son corps. Même la chanson, en yiddish peut-être, du tout début, semble être à la fois une invitation au travail, mais aussi une sorte de résurgence du spectacle qui a déjà fini, sans l'être tout à fait, et dont on désassemble les pièces. Ambiance visuelle. Une structure en bois est disposée au beau milieu de la scène. J'aime ce bois, j'aime ces planches. Arrosées d'un simple spot, caresse la fibre à nu. À côté de ce quasi-cube bien organisé, je ne sais plus quel modèle de chez Ikea, vient s'entasser l'exact opposé. Une femme joue au Mikado à taille humaine en disposant des planches longues et fines sur le sol. D'un côté, une structure vide, de l'autre, un tas désorganisé. On se croirait chez Beckett. Ambiance gestuelle, Beckett, encore et toujours. Quatre acteurs tentent de se dépatouiller de tout leur matériel. Fouilles de poutres, contrastant avec de petites billes de terre renversées, secouées, embobinage, désembobinage de longs corps de tissu. Deux perches métalliques, en écho à la vie sonore des coulisses, servent tour à tour de perches, parfois même de baguettes chinoises. Aucun des acteurs ne souhaite toucher le sol, comme s'il fallait à tout prix s'en dégager. Très vite, je m'imagine que le noir de la scène, contrastant avec la douceur du bois, n'est en fait qu'un abysse dans lequel les acteurs peuvent à tout moment sombrer. Les planches seraient en réalité disposées loin du sol, au contrebas, comme en équilibre dans une espèce d'apesanteur. Cela donne encore plus de majesté à la structure de bois, qui me paraît plus grande, mais aussi et surtout plus vitale. Personne n'ose toucher le sol, tout le monde tourne autour de ce monument de bois. Les matassins se déplacent d'une planche à l'autre ou sur des échasses, restent perchés sur la structure qui s'étoffe au fur et à mesure que chacun ramène des bouts de bois et en remplit la structure. Ce soir, on débusque les matassins est un spectacle qui n'en finit pas de décontenancer. Classement impossible de la pièce, sinon qu'elle est une vaste expérience corporelle. Corps qui se tordent, se contorsionnent, se raccrochent comme ils peuvent, et pourtant, on n'est jamais vraiment perdu, on n'est jamais tout à fait en dehors du spectacle, cherchant à tout prix à s'accrocher à des bribes de compréhension. On se laisse porter. Après tout, les matassins ne forment-ils pas une sorte de bateau avec leurs planches ? C'est le radeau des saltimbanques. Et quand tout semble prendre forme, la lumière s'abaisse et les matassins posent enfin pied au sol.
Eh bien, merci Lola et encore merci Caroline pour vos superbes chroniques qui d'ailleurs, par leur format et leur contenu, nous invitent finalement à poser effectivement un regard particulier sur cette pièce ou ce spectacle plutôt bien particulier, à savoir, comme tu le disais justement Lola, qu'il s'agit finalement moins d'une représentation symbolique qu'une expérience sensorielle. Le format justement chanson comptine très enfantin et ludique de Caroline et les considérations sur l'importance de la corporalité, l'importance d'un carpe diem finalement du spectateur pendant ce spectacle nous le montre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, plutôt que de vous poser la question traditionnelle un peu trop sérieuse et conceptuelle du type donner un mot ou une phrase pour définir ce spectacle, nous allons la jouer un petit peu plus originale et synesthésique. Les filles, dites-nous une lettre et une couleur pour définir cet instant.
Dites bonjour à Rimbaud.
Bonjour Rimbaud.
Donc moi je dirais la lettre A, puisque c'est une bonne onomatopée pour le spectacle. Il y avait des moments où il faisait la TR sur la tête, dans des cuvettes, en équilibre sur les Mikado. C'était genre A. Et la plupart du temps, c'est quand il essayait de grimper. Alors moi j'ai le vertige, j'ai peur des escaliers. Donc quand il essayait de grimper sur les planches en bois, c'était genre A. Et couleur, je pense beige, la couleur du bois, qui est une couleur assez neutre. Et comme l'idée de base de la. Enfin, je sais pas trop quel a été le projet à l'origine, mais en tout cas, ce qu'on voyait sur scène, c'était quelque chose d'assez dénudé, simple. Et pourtant, ils arrivaient à en faire quelque chose. Comme la couleur beige peut être très belle quand elle est bien assortie.
Bah alors, moi, pour ma lettre, ça sera K, comme Kapla. Et ensuite, pour la couleur, je rejoins tout à fait Caroline. Pour moi, c'est beige. Déjà, j'ai adoré la couleur.
Un peu d'originalité, dit taupe ou je ne sais quoi.
Leur taupe, faucon. C'était vraiment, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont acheté ce matériel, mais c'était magnifique. Ils ont dû travailler, je pense, avec un ébéniste. Il y a eu un travail à ce niveau-là qui est assez incroyable. Bah, j'adorais.
Ouais, nous avons justement posé un peu la question à Conrad qui en revient sur le travail plastique fourni pour le spectacle. C'est assez intéressant, effectivement.
Bon, alors, c'est bien gentil de nous parler du beige du bois, mais il y avait aussi le marron des petites billes qui étaient répandues sur la scène, n'est-ce pas ? Alors, que vous inspire-t-elle ou ne vous inspire-t-elle pas, ces petites billes, d'ailleurs ?
Moi, maintenant, à chaque fois que je vois quelque chose de rond, je pense à Caroline. Parce que depuis le premier spectacle qu'on a partagé, c'était avec les petites babales. À chaque fois, je me dis, je pense à Caroline, que penserait Caroline des petites babales ? Et donc là, c'est des petites bibilles. Je crois que encore une fois, dans l'approche plastique qu'on a de l'œuvre et qu'il faut à mon avis avoir de l'œuvre, c'est en total contraste avec, au contraire, le marron, on va dire plus tendre du bois qui forme la structure et qui est donc rectiligne avec des grandes lignes. Là, c'est des toutes petites billes marron foncé. On est sur du contraste, je pense.
Alors oui, bien sûr, il y a effectivement le jeu des couleurs entre les billes et la structure, mais également tout simplement la question de la mobilité et du rapport au sol. Tu soulevais le fait que ce sont des personnages qui ont énormément de difficultés à finalement rejoindre terre, alors que là, précisément, les billes ne cessent de s'écouler et de rouler au sol. Et par ailleurs, elles sont petites par rapport au côté massif, imposant et presque peut-être pesant de la structure.
Il y a même un côté musical, quand justement elles se déplacent, on entend le bruit des billes dans le seau en métal, et même quand ils les écrasent aussi.
Moi, je m'inquiétais avec les... parce que je me suis demandé si les poudres libérées n'étaient pas nocives pour...
Exactement.
Genre, il me faisait peur. À chaque fois, j'avais peur qu'ils tombent, j'avais peur que c'est tout. Il y en a un qui a glissé là sur les billes.
Oui, il y en a un qui a glissé. Il y en a même un, où une planche a failli se déplacer complètement. Ouais. Et j'ai eu peur.
Alors voilà, ça c'est un peu l'introduction de l'arbitraire et de l'improvisé, disons, dans le spectacle. Justement, Juliette de Beauchamp nous a expliqué que le deuxième soir, le comédien n'avait pas failli se casser la gueule. Donc c'est vraiment aléatoire. C'est un peu là pour ça aussi. Je précise pour les auditeurs qui n'auraient pas vu le spectacle que oui, effectivement, à un moment, il y a un acteur tête renversée dans une cuvette qui se voit déverser toutes les billes sur sa pauvre tête.
Comment il respire ?
Je sais pas.
On se demande.
Mais oui, c'est assez intéressant de voir tous ces mélanges. Et c'était vraiment une belle expérience plastique, effectivement. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Tout le niveau, au niveau visuel, au niveau presque sensoriel. Parfois, moi, j'avais l'impression effectivement d'écraser aussi les billes. Enfin, ça me faisait quelque chose. Et surtout, et aussi au niveau de l'écoute, au niveau de la musique, toute cette ambiance sonore qui précède la véritable ouverture scénique de l'œuvre, et puis même pendant tous les jeux qu'il y a, c'est assez incroyable.
Et du coup, comme tu dis, on commence avec les sons en dehors de la scène, et après, en fait, ça se poursuit plus ou moins pendant tout le spectacle, il y a toujours des petits bruits, sauf tout à la fin, quand ils sont tous en haut. Et c'est un silence absolu. Et c'est vraiment, du coup, ça a une profondeur assez incroyable. Enfin...
C'est comme si ils avaient justement construit cette profondeur. Et tout d'un coup, ils sortaient du tableau pour voir le tableau. Tu vois, genre, ils ont créé cette structure avec tout le son qu'il y a derrière. Mais comme ils sortent du tableau, ils sortent aussi de toute l'ambiance qu'il y a. Donc, j'imagine le bruit des matériaux, etc. Et tout ce qui reste, effectivement, c'est le silence. Et aussi leur propre sourire. Et quand ils sourient, on entend le bruit de leur sourire. On entend ce bruit-là, ce bruit de... C'est ça, il n'y a plus que ça qui reste. Quoi, et moi, j'avais envie de rigoler. Pendant la première représentation, il y a des gens qui ont ri. Ouais. Je pense que c'était bien de rire. Enfin, il ne fallait pas se...
Mais après, le moment du silence, enfin, je trouve que l'atmosphère changeait. Oui. Par contre, après, ils se regardent, ils sont genre, bon bah,
oui, c'est
on
ça.
Descend.
C'est
ouais, exactement, on descend. Exactement, et là, on rigole. Le côté absurde, genre, mais pourquoi on construit une pièce ? Pourquoi est-ce qu'on construit un truc en bois débile ? Bon bah, c'est fini.
Ouais, c'était bien de rire.
Voilà, alors ça, c'était une question que je voulais vous poser justement, puisque ce sont des matassins, donc des danseurs bouffons. Est-ce que ça vous a donc fait rire, franchement, à quel moment ? Pourquoi ? Et vous avez le droit de ne pas avoir ri aussi.
Moi, j'ai rigolé.
Mais toi, tu rigoles tout le temps au spectacle, là.
C'est pas vrai. Il y a eu des moments
où c'est vrai.
J'ai trouvé ça drôle, mais pas drôle dans un sens pour abaisser et se moquer. Plutôt dans le sens où ça me faisait plaisir de rire parce que c'était des moments absurdes qui étaient bien faits, justement. Par exemple, quand un des acteurs marche avec des toutes petites échasses, à se demander pourquoi ne pas marcher directement sur le sol.
Mais le sol, il fallait pas qu'il le touche.
C'était très drôle. Et je pense que les acteurs, même dans leur mimique, avaient conscience que c'était, d'une certaine manière, risible. Quand ils se tournent tous vers lui, à un moment donné, il y en a un qui est attaché, je crois que c'est le même, attaché à un bout de cette longue ficelle, qui ne peut pas bouger. Enfin, c'est pareil, il y a quelque chose d'encore risible, comme si leur esprit de matassin, le spectacle étant fini, il continue. Il y a quelque chose de l'ordre de la continuité et de l'ordre du passé toujours présent. Et je trouvais qu'il y avait des moments où c'était possible de rire, d'autres moins, le moment notamment de... tout début, quand la femme chantait en yiddish, c'était beau, mais c'était assez poignant, j'ai trouvé.
Moi, j'ai pas beaucoup rigolé. Je rigolais pas un petit moment, tu sais, les rires nerveux, donc c'est absurde. Ça a jamais été un gros rire, vraiment, que comme tu imagines, avec des bouffons. Mais après, il y avait un côté, je trouve, assez joueur. C'est pour ça que j'ai fait une comptine, en fait. C'est que, oui, c'est une expérience plastique, mais pas dans le sens... on est en scène, on fait des choses expérimentales, nous. Il y avait un côté enfantin, un peu, on va essayer, on va empiler des bouts de bois, et puis, et maintenant, on fait quoi ? Et on met des billes.
Bah, les mécanos.
Je monte, je descends. Passe-moi un bout de bois. Non, mets-le là. Non, sans parler, bien sûr.
Puis j'enroule la corde, je désenroule la corde, alors que la personne avait déjà enroulé la corde. Enfin, il y a quelque chose de refaire et défaire, comme des enfants qui s'amusent dans un bac à sable et qui défont le pâté de sable du voisin pour en refaire un.
C'était mon expérience. Donc, j'ai peut-être pas tout le temps rigolé, mais j'ai toujours été un peu dans cet esprit de. Amusé. Et en même temps, la moitié du temps, je flippais parce que
c'est ça.
Ils me font peur sur la bout de bois.
Il y avait un rire un peu jaune et vert pour en revenir aux couleurs.
Des rires de peur, ouais.
Voilà, des rires de peur et d'inquiétude. Et donc, finalement, là, on vient bien d'évoquer le rapport des acteurs-danseurs aux objets, donc structure en bois et billes en particulier. Mais que diriez-vous du rapport et du jeu des acteurs-danseurs entre eux ? Si vous voulez, enfin moi, il m'a semblé justement tout ce, qu'il y avait une espèce de recherche, de relation et un peu de, limite d'union entre les personnages qui essaient de se rejoindre, qui se mettent les uns sur les autres.
Ils s'ignoraient beaucoup.
Bah, ils s'ignoraient,
sachant que c'est vrai qu'ils ne se parlent pas.
Voilà, il n'y a pas d'interaction
à part le chant. Ils font tous une action séparée. On dirait qu'ils sont en fait très très loin.
Oui, mais du coup, parfois, ils en viennent à élaborer des choses ensemble, à essayer de se rejoindre et ils échouent. Ils montent, enfin l'un sur l'autre ou l'une sur l'autre. À un moment donné. Et puis ils sont obligés de les faire tomber et justement là ils tombent au sol.
Bah, moi toujours dans l'idée effectivement de construction de quelque chose plus ou moins avec un certain art quoi. Donc on désemballe quelque chose, on le remet sur pied dans un autre ordre et ça demande de l'organisation, ce qu'ils n'ont pas. Donc justement ils peinent à justement s'organiser. Et moi, quelque chose justement qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'à un moment donné c'était vers la fin, la structure bateau était plus ou moins finie, est en train de se finir, et il y a tout un truc qui s'est cassé la gueule mais complètement. Et c'était très drôle parce que je crois que c'était pas prévu et même eux étaient un peu genre zut, est-ce que moi je me suis dit ça aurait été intéressant que du coup dans l'action, enfin en faisant ce choix totalement délibéré du coup de faire un peu un écart par rapport à ce qui était peut-être prévu à la base, ils reprennent le temps de remettre en place qui était tombé. Ça, j'aurais trouvé ça très drôle. Il y a quelque chose de, effectivement, de vouloir s'unir par la construction qui réussit.
Mais avec un manque de coordination.
Avec un manque de coordination. Mais à la fin, ils réussissent quand même. Enfin, à la fin, il y a un moment où ils sont tous déjà sur la plateforme, puis ils en descendent chacun séparément. Et à la toute fin, dans la contemplation de l'œuvre, ils sont plus qu'unis entre eux, ils sont unis aussi avec le spectateur.
Oui, c'est une communion.
Il y a une communion totale, et c'est une œuvre qui est totalement aléatoire, donc qui est toujours unique, et unique pour leurs propres yeux, comme pour les nôtres, puisqu'on vit dans le spectacle qu'une seule fois, mais eux, en tant qu'acteurs, ne recréent jamais exactement la même structure, j'imagine.
Peut-être qu'il y avait plus effectivement, de communication vers la fin, parce qu'il y avait des moments sur scène où je regardais un personnage pour essayer de comprendre ce qu'il est en train de faire. Du coup, je manquais parfois des bouts d'action de quelqu'un qui commençait à faire quelque chose de tout aussi absurde. Et donc, il y avait un peu ce chassé-croisé entre les personnages. Après, ils ont commencé effectivement à monter sur les épaules, à se passer des bouts de bois. Sauf que des fois, ça ne marchait absolument pas, mais on allait vers plus d'interactions entre les personnages, je pense.
Et finalement, également, peut-être, on peut remarquer une forme de rapport particulier entre les acteurs et les objets. Donc, on évoquait la chose tout à l'heure. En termes, finalement, de les acteurs sont les sujets et on a des objets en face qui sont leurs matériaux. Alors que finalement, quand on y pense, les acteurs-danseurs ont également des échasses. Il y a également tout le bandage. On a l'impression que pratiquement, ils se mettent des prothèses où les objets deviennent des prolongements d'eux-mêmes. Donc il y a finalement une humanité revisitée et peut-être également un rapport sujet-objet, sinon inversé, en tout cas brouillé.
Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure concernant l'idée de vitalité qu'il y avait dans le matériel. Le fait de marcher que sur ces bouts de bois, c'était comme si soit c'était un prolongement de la vie, soit c'était le seul moyen de la maintenir. Enfin, il y a quelque chose comme ça, effectivement, tous les matériaux, tout le décor qui en fait participent activement à l'intrigue, si intrigue, enfin, il n'y a pas vraiment d'intrigue, mais en tout cas à ce qui se passe sur scène. Et en plus, effectivement, tout ce matériel, on lui insuffle la vie. Le fait à la fin de donner forme vraiment, plus ou moins, on dirait, c'était un peu un mix entre un radeau, un bateau et une sorte de grand immeuble. Mais il y avait
tour des claplas.
Avec plein de caflas. Et ce qui était très beau, moi, ce que j'ai trouvé, c'était la lumière, le travail de la lumière, qui en fait est relativement simple quand on y pense.
Et surtout à la fin.
Surtout à la fin.
Avec le silence.
C'est ça. Et il y a en fait, c'est un seul spot, grosso modo, pendant toute l'expérience. Il y a une espèce de spot avec une lumière plus ou moins crue. Et à la fin, cette lumière s'atténue et on a en fait cette espèce d'ombre qui se découpe encore avec quelques raies de lumière mais plus grand chose, et ça c'est vraiment beau, et on se dit il y a quelque chose qui est né quoi, une sorte de je sais pas de
si on a aucune idée de ce que
on
c'est
on sait pas ce que c'est peut-être c'est peut-être la pièce en elle-même, c'est peut-être justement son résultat qui en projection nous montre tout le travail qu'il y a eu avant après. Effectivement je suis assez d'accord dans l'idée que le matériel on lui donne vie sur scène.
Bien, peut-être une petite question pour terminer, qu'avez-vous pensé finalement de la durée relativement courte du spectacle?
Ça n'a pas fait long feu.
C'est pas la taille qui compte.
Pas la taille.
Écoutez, les yeux ont des oreilles.
Non, vraiment, moi j'ai apprécié la longueur, pas longue.
Je me suis dit que c'était parfait. C'est une expérience qui doit rester courte.
Parce que si c'est long, je pense que ça devient prétentieux dans ce cas-là.
Oui, tout à fait. Ça crée un moment parenthèse un petit peu finalement. Il y avait un côté havre de paix, pause, une virgule quoi.
Tout à fait.
D'accord. Alors, l'ultime question de conclusion. Ce spectacle se revendique comme essai. S'il venait à être prolongé, retourneriez-vous le voir?
Oui.
Oui.
Merci les filles. En guise de contrepoint, nous avons rencontré donc la dramaturge Juliette de Beauchamp et le metteur en scène Konrad Kaniouk. C'est tout de suite dans En spectateur.
Mmh.
Merci, chers auditeurs, de rester avec nous pour ce nouveau numéro d'En Spectateur et d'écouter tout de suite la dramaturge du spectacle, Juliette de Beauchamp, mais également le metteur en scène, Konrad Kanyok, qui sont venus exprès au studio mobile de Transistor pour se laisser interviewer au sujet de leur spectacle. Donc, merci à vous et bonjour.
Bonjour.
Donc nous avons assisté, toute l'équipe est allée voir le spectacle. C'était d'ailleurs intéressant puisque pour la première fois en fait depuis le début de l'année scolaire, on a eu droit à un spectacle de danse, ce qui était une nouveauté. Jusqu'ici, on a critiqué que du théâtre, donc ça nous change un peu. Et c'est avéré que un certain nombre de gens ont été surpris du fait de la longueur du spectacle qui était assez courte. Effectivement, c'était annoncé environ 45 minutes plus ou moins. Et on s'est demandé, sachant que ça avait duré un peu moins longtemps, s'il y avait une part d'improvisation laissée aux danseurs et s'il y a effectivement part d'improvisation, dans quelle mesure et jusqu'à quel point.
Peut-être d'abord, je dirais pas que c'est une pièce de danse, personnellement. Pour moi, c'est plutôt un essai qui lie la forme du théâtre avec la performance. Du coup, je préférais de parler de peut-être de comédiens ou des performeurs, voire des gens qui ont aussi un nom. Donc du coup, de Léa, Chaoki, Sidonie et Sébastien. Effectivement, en fait, je dirais pas non plus que c'est la danse parce que la première partie, en fait, les premières 35 minutes sont calées très fortement. Donc du coup, il y a une piste très forte qui n'exige en fait ou qui ne laisse pas la place pour des improvisations. Pourtant, la fin du spectacle, disons le dernier 4-5 minutes, on a fait exprès de l'ouvrir et de rentrer plus en fait dans le spectacle vivant au sens de la performance où notamment il y a des imprévus qui sont d'un ordre différent que les imprévus de la première partie du pièce qui sont déjà donnés par le dispositif théâtral qu'on fait par le bois qui n'a pas toujours bien sûr la même place mais qui crée dans le dispositif déjà une imprévue mais qui est une imprévue assez bien calée quand même.
Oui, parce que finalement, le bois, justement, dans ce spectacle, c'est un peu l'armature branlante du spectacle. Quel est le sens dans cet essai? Parce que c'est assez bien spécifié. Tu disais tout de suite, c'est pas de la danse, pas tout à fait. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, le sens du bois, en fait, de la part de concret. Pourquoi finalement cette structure comme ça on voit bien que ça participe du jeu, ça aide le jeu, ça le tient. Mais est-ce qu'il y a un sens particulier? Est-ce qu'il faut y lire quelque chose?
Je crois qu'il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, s'il y a quelque chose qui est intentionnel là-dedans, c'est justement qu'il n'y a aucune intentionnalité. Rien n'est imposé, en fait. Même si la structure est assez massive, je pense que le but, c'est justement de laisser ouvert le sens. Je ne sais pas, Konrad, si tu es d'accord avec moi sur ça, sur le fait que...
Ouais, je dirais même que, en fait, la question ne se pose pas pour moi du sens, parce que... Mmh. Elle se pose pas.
Bah, en fait, ce que je me demandais, c'était cette armature, ce bois. Finalement, vous offrez à côté du travail de l'artiste, des saltimbanques, si j'ose dire, sur scène, donc un travail plastique, en fait. Je trouvais ça assez intéressant. Tout ça pose la question, évidemment, de la genèse, en fait, de l'œuvre, qui, en plus, est une œuvre en cours, en construction, c'est le cas de le dire. Et d'où vient cette œuvre? D'où vient cette idée de travail plastique en plus de travail du corps, du jeu, proprement parlé, des personnages?
Bah, ça vient d'improvisation, en fait. C'est presque un processus qui est à l'œuvre et qui continue d'être à l'œuvre sur le plateau. Mm-hmm. Donc la structure, en fait, fait entièrement partie de ce processus. Je pense qu'elle s'est pas imposée, elle est née avec, en quelque sorte, au fur et à mesure.
Oui, surtout, on voit aussi bien dans le propos de 40 minutes qu'on a fait que même la structure change au fur et à mesure ses fonctions.
Oui, parce que tu parlais d'improvisation tout de suite, mais pourtant, j'imagine que ce n'est... Est-ce que c'est vraiment... Enfin, s'il y a une trame générale, mais qui après laisse finalement le champ à l'imprévu, c'est quand même bien ficelé, parce que pour arriver à un degré de maîtrise du point de vue du rythme, etc. Dans quelle mesure, finalement, il y a une part de spontanéité, d'improvisation, véritablement?
Je dirais qu'on a ficelé dans la nécessité de le représenter, mais que, en fait, c'est peut-être pas le but ultime. Peut-être qu'on a ficelé parce qu'il fallait ficeler à un moment, dans le but d'une représentation, mais que, comme l'indique le titre, c'est un essai, donc c'est voué à se développer d'une façon plus large, et que finalement peut-être que le fait de fixer certaines choses est nécessaire mais pas volontaire, en fait.
Bien sûr.
Enfin, dans un idéal de continuité, de suite, en fait.
Et de mémoire. Et justement, je me demandais comment vous avez réussi tout bêtement à transcrire le spectacle, c'est-à-dire, enfin, pour avoir fait du théâtre, bon, du théâtre classique, n'est-ce pas, je sais bien que on apprend des répliques, on a quelque chose de concret, on a un livre, on a un texte, etc. Là, comment vous présentez les choses pour que les comédiens puissent apprendre à jouer, à se souvenir de ce qu'ils doivent faire à tel moment, etc. Comment ça se passe concrètement?
Comme Juliette a en fait déjà indiqué tout à l'heure, on part des improvisations et notamment la question de la partiture ou de la transcription ne se pose pas dans le processus de création pour le spectacle. Si, il y a certainement des choses, comme Juliette a dit tout à l'heure, qui sont décidées, mais cette décision, à la fin, il m'intéresse beaucoup moins que le processus de création. Parce que si on parle qu'un livre est concret, qu'un livre pose la base d'une création, d'un objet vivant à la fin. Je dirais que l'improvisation qui est amenée par Chao, qui parlait par Sidonie et Sepp, elle est assez aussi concrète en fait que le livre.
Mais justement, comment vous faites en tant que metteur en scène juste pour diriger en fait les comédiens? Parce qu'il y a une part de direction quand même, direction d'acteur. Comment vous... J'ai du mal à m'imaginer, en fait, à la place des comédiens pouvant préparer et répéter ce type de spectacle.
Je pense que c'est moins mystérieux qu'on pense. Ils proposent quelque chose et c'est à nous de voir si ça nous dérange ou ça ne nous dérange pas. Et après, c'est à nous de construire à partir de ce qu'ils ont proposé une pièce.
D'accord, donc il y a vraiment un processus en fait d'interrogation des comédiens et donc vous leur laissez pas mal la parole. Alors justement à ce sujet, quelle formation ils ont à l'origine? Ce sont plutôt des comédiens, plutôt des danseurs?
En fait, on a une équipe assez mixte. Il y a Sidonie qui vient de sortir de Conservatoire National Supérieur de Danse de Lyon. Après, il y a Léa qui a fait le CCN. Sébastien qui vient de sortir aussi du concert. En fait, c'est une équipe mixte. Donc, on a deux danseurs à la basse et deux comédiens.
D'accord. Et alors, justement, puisque c'est un spectacle qui est, disons, en cours, en processus et en création, quel avenir est-ce que vous envisagez pour lui? Comment est-ce que vous envisagez justement de continuer le processus?
Ça sont des questions plutôt de l'ordre de la politique, je dirais. Donc, si... notamment là, on a heureusement eu la chance de commencer cette recherche ici à l'école, mais avec le matériau qu'on a, c'est-à-dire les enregistrements aussi, les retours qui font quand même une partie de notre réflexion pour la suite. Avec tout ça, j'aimerais bien d'écrire un jour le dossier dramaturgique pour cette pièce, pour répondre aux appels des résidences, notamment là pour la suite au Ramdam.
Oui, alors il y a quand même une question qu'en tant que germaniste, j'ai envie de poser. Conrad, tu vas pouvoir nous éclairer là-dessus. C'est dans ce spectacle, il n'y a pas de parole, sauf au début. Au début, il y a une des comédiennes qui se parle. Et moi, j'ai mal entendu, j'ai pas tout compris. Donc déjà, j'aimerais bien savoir ce qui se dit, parce que voilà, je suis un petit peu... Enfin, ma fierté est un peu touchée tout de même. Mais cela dit, c'est surtout pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont allées voir le spectacle et qui aussi, peut-être, profanes dans la langue de Goethe, se sont demandé ce qui s'était dit à ce moment-là.
Alors, je précise que je parle un peu allemand, mais assez mal, et j'ai pas compris, mais ça ne m'a pas empêché de trouver ça très beau, donc après tout, est-ce qu'on a vraiment besoin de comprendre? Mais bon, je laisse la parole à Conrad.
Les auditeurs qui ne veulent pas comprendre et juste saisir les sonorités éteignent la radio.
Moi, je suis assez d'accord avec Marie, c'est une question à laquelle je pense je peux pas non plus répondre, sauf autant que c'est pas de l'allemand.
C'est pas de l'allemand, mais est-ce qu'il y a des sonorités allemandes? Cette réponse énigmatique invite nos auditeurs et nous-mêmes à laisser vagabonder notre imagination. Et soit dit en passant, je suis rassurée de savoir que ce n'est pas de l'allemand, parce que ça veut dire que je suis bonne germaniste et qu'en fait, ce n'est pas moi qui n'ai pas compris ce qui se disait sur scène. Donc je suis rassurée. Merci à vous en tout cas d'être venu avec nous, d'avoir échangé à ce sujet et bonne continuation pour votre spectacle et vos projets.
Merci.
Merci.
Thank you.
bien, chers auditeurs, après cet instant créatif, ludique et synesthésique autour du spectacle joué en Cantor en février, nous allons maintenant avoir droit et le plaisir d'écouter la chronique de Charlotte sur Le Roi Lear, qui est passé en février au TNP, Le Roi Lear, une version de Christian Sciaretti.
Ah là là, Le Roi Lear de Shakespeare, un classique parmi les classiques. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la mise en scène de Sciaretti qui s'est tenue il y a pas longtemps au TNP à Lyon. Rappelons d'abord à nos auditeurs en quelques mots la fable de cette pièce. Lear, le roi d'Angleterre, se fait vieux et désire quitter le trône. Pour partager son royaume, il demande à ses trois filles de lui expliquer à quel point elles l'aiment. Si ses deux aînées, Goneril et Regan, se livrent avec plaisir à la flatterie, la dernière, Cordelia, refuse et exprime de façon assez juste son amour qui est pourtant fort. En gros, c'est « Papa, je t'aime beaucoup, mais quand je serai mariée, je t'oublierai un petit peu. » Le roi, donc, assez en colère, la chasse et donne sa part du royaume aux deux autres sœurs sous condition qu'elles l'hébergent jusqu'à la fin de ses jours. Mais ces deux filles aînées, malgré leurs discours mielleux et leurs promesses, vont l'une après l'autre lui fermer la porte, conduisant donc le vieil homme à sombrer dans la folie et tragique, etc. Donc, pour vous parler de la mise en scène de cette pièce qu'a fait Sciaretti, je pense qu'il est d'abord important d'expliquer à nos auditeurs le parti pris qui irrigue en fait toute l'œuvre de ce metteur en scène. En fait, Sciaretti essaie un parti pris assez global quand il monte une pièce. Il essaye de rendre les textes tels qu'ils étaient lors de leur création, c'est-à-dire que pour lui, il s'agit de rester au plus près du texte et de la volonté de l'auteur et de rendre ça pour les spectateurs aujourd'hui. D'où, en fait, les costumes d'époque qui signifient peu, si vous avez pu les voir, sauf l'ancrage temporel de la fable. En gros, ce sont des beaux et grands costumes de princes et de princesses, etc. D'où aussi le choix de la traduction d'Yves Bonnefoy, que les Cagneux connaissent sûrement, peu ancienne, mais qui, par son aspect poétique, conserve une certaine distance avec le temps présent, tout en rendant quand même le texte plus compréhensible que des traductions anciennes. D'où aussi la reprise d'une forme de plateau similaire à celle utilisée par Shakespeare au Théâtre du Globe, c'est-à-dire une forme de plateau plutôt ronde. Mais, peut-être, et moi ça m'a gêné, ce respect total empêche la mise en scène d'être innovante et surprenante. Parce que, pour moi, ce qu'on a, c'est une scénographie pleine de promesses, mais qui n'exploite pas les potentialités qu'elle a en fait. Lorsqu'on arrive dans la salle, on peut voir un dispositif scénique assez impressionnant. On est face à une sorte de demi-arène, ce qui évoque un combat. Le Roi Lear, en fait, c'est l'histoire quand même d'un combat pour le pouvoir. Et c'est avant tout une lecture politique que Sciaretti entend faire du texte. Une lecture politique selon laquelle la démission du roi entraîne, il le dit lui-même, une balkanisation explosive du royaume. Il explique alors que cette lecture géopolitique, un corollaire scénographique pour lui, c'est le cercle. Cependant, on a quand même l'impression que cette scénographie ne tient pas ses promesses. Si Sciaretti voulait jouer sur une économie spatiale qui démultiplie les possibilités d'espace, comme il le dit dans sa petite note, hein, très très bien rédigée, mais qui ne colle pas du tout au spectacle, à la croisée d'un Copeau et d'un Shakespeare, pourquoi n'a-t-il pas entièrement joué la carte de la nudité? Ce n'était pas possible, hein, parce que c'est un metteur en scène et il veut faire une belle scénographie. Voilà, il veut nous en mettre plein la vue, en gros. Voilà. S'il voulait jouer sur le côté patrimonial en reprenant la circularité de l'espace élisabétain, pourquoi n'est-il pas allé plus loin dans la reprise du dispositif scénique? Car le Théâtre du Globe, ce n'est pas seulement une scène circulaire, comme il nous a donné à voir. C'est surtout et avant tout une machine à jouer. Ce que n'était pas du tout, mais alors pas du tout, la scénographie de Sciaretti. Le seul jeu avec ce décor d'arène? Un obscur enchaînement de montées et descentes des panneaux situés derrière les arcades où on se perd, mais vraiment, je vous jure, on se perd. Hein. J'ai passé des heures à me demander ce que ça pouvait bien vouloir dire. On se perd à chercher une signification. Pourtant, il y avait moyen d'utiliser cette machine scénique à bon escient. On a eu un bel exemple. Franchement, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais cette image-là, je me suis dit « Ah tiens, là, il a trouvé un bon truc !» On a eu un bel et unique exemple au cours de cette pièce. L'image de toutes les portes qui s'ouvrent d'un coup, dévoilant des assassins. Ça, c'était la belle image et la bonne idée du dispositif. C'est juste dommage que, en presque 4 heures de spectacle, il n'y en ait eu qu'une seule. Mais bon, ce spectacle n'est pas quand même entièrement à jeter. Il faut bien le dire, il a des très gros points forts. Et je pense que le plus gros point fort de ce spectacle, c'est des acteurs vraiment exceptionnels. Bon, je vais pas vous le cacher, j'ai pris ma place pour Le Roi Lear. Dès que j'ai vu le nom de Serge Merlin en Roi Lear, je me suis dit « Oh mon Dieu, ça va être énorme !» Et je n'ai pas été déçue. En effet, dans son interprétation du Roi Lear lors des dernières scènes, Serge Merlin, vraiment, mais vraiment, amène les larmes aux yeux. Je sais pas si c'est parce que je suis touchée par ce genre d'histoire qui met en scène les vieux, etc. Parce que, voilà, pour des raisons X ou Y, je suis très attachée aux vieux. Enfin, dans une certaine limite, hein, pas les vieux de l'ENS, hein, mais les grands-parents, les choses comme ça, j'aime bien. Alors, franchement, c'était... mais... magnifique. Autant au début, j'étais pas tout à fait convaincue parce que je m'attendais à un roi lire beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus grandiose en fait avant sa déchéance. Pour moi, le roi lire, c'était vraiment quelqu'un de grand et qui sombrait petit à petit dans la folie. Là, on sentait dès le début qu'il y avait une espèce de fragilité et que la folie le guettait déjà, qu'il se laissait trop facilement emporter. J'étais un petit peu déçue par ce côté-là parce que je trouvais que la chute était d'autant plus vertigineuse qu'il tombait de haut, donc c'était dommage de le faire déjà si faible au début. Mais vraiment, les dernières scènes ont rattrapé tout ce que j'ai pu penser parce que, voilà, clairement, ça m'a amené les larmes aux yeux, hein, et pas qu'une seule fois, c'était vraiment très très émouvant. Vraiment, il y avait une telle impression de fragilité qui se dégageait de son jeu que la salle était comme hypnotisée. Enfin, c'était magique. Il est tout à fait émouvant dans ce rôle de la vieillesse fragile. En fait, c'était à prévoir parce que, je vais vous l'avouer, j'ai pris ma place parce que je l'avais vu l'année dernière dans la mise en scène de fin de partie par Françon où il faisait âme. Et même si cette vieillesse du roi Lear diffère un peu, qu'elle est plus fragile et plus folle que l'absurde vieillesse de âme, j'étais sûre qu'il allait être magnifique. Et vraiment, c'était... voilà, si vous avez l'occasion d'aller le voir parce qu'il passe à Paris, je vous le conseille. Mais c'est quand même pas le seul comédien à tirer son épingle du jeu. On a un véritable dynamisme d'ensemble qui se dégage de la troupe. Certains attirent plus l'attention, tels les interprètes d'Edmond, d'Edgar ou alors du fou. J'ai beaucoup aimé Edgar, oui, il était très dynamique et c'était vraiment pas mal. Le fou du roi, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas été plus exploité parce que personnellement, c'est... un personnage que j'aime beaucoup, parce que je trouve que ce qui est magnifique chez Shakespeare, c'est le traitement de la folie. Lorsqu'il introduit un fou sur scène, il ne manque jamais d'y apporter un contrepoint en montrant qu'il existe plusieurs types de folie. C'est ce qu'on voit dans Hamlet. Alors vous connaissez tous à peu près l'histoire d'Hamlet. Déjà, Hamlet, on ne sait pas s'il est vraiment fou ou pas. Donc il y a déjà deux types de folie possibles, soit la folie simulée, soit le véritable fou. Mais il y a aussi Ophélie qui, elle, devient folle d'amour. Et à côté de ça, on a aussi ce qu'on appelle... soit les clowns, soit les fossoyeurs, qui vient introduire un contrepoint comique. Et il en va de même dans le roi Lear. Les apparitions en fait conjointes du roi Lear, de son fou, enfin de son fou, c'est-à-dire au sens propre, celui qui a le métier de fou, et de la folie feinte d'Edgar étaient d'une véritable force. Et je pense que c'est dommage quand même de ne pas l'avoir plus exploité, parce que c'est là, à mon avis, ce qui est très très intéressant chez Shakespeare. Pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Que ce spectacle constitue un beau moment pour ceux qui souhaitent voir un classique, un premier roi Lear. Les acteurs sont bons, voire excellents pour certains. La troupe donne un véritable dynamisme à cette pièce plutôt longue. Cependant, ceux qui considèrent qu'un spectacle est un peu plus que la mise en espace d'un texte en ressortiront un peu déçus. La pièce de Shakespeare est tellement forte, mais tellement belle et tellement moderne qu'on pourrait en attendre un peu plus. Scarretti en fait se cantonne, on va dire, à une conservation du texte et à une illustration de celui-ci. Il ne cherche pas en fait à faire revivre les résonances contemporaines du texte qui servirait peut-être mieux le génie et l'audace de Shakespeare. Je suis pas pour faire toujours du moderne, pour faire du moderne, etc. Mais franchement, lorsqu'on a un acteur comme Serge Merlin à sa disposition, qui est toujours magnifique dans les rôles de vieillard, qu'on se trouve dans un pays où la vieillesse de la population constitue un problème majeur, pour moi, une lecture politique sur la partition du royaume semble quelque peu décalée, surtout de la manière dont il l'a fait. Ici et maintenant, pour moi, le roi Lear, c'est une tragédie personnelle, celle de la vieillesse abandonnée, celle qui se meurt dans la différence, voire le rejet de la jeunesse. Et oui, ça m'a fait mal de voir cette pièce simplement mise en espace, sans, pour moi, sans rien de plus. Même si je sais que c'est le parti pris de Schiaretti à la base, mais il y avait pour moi, tellement de résonances contemporaines, mais qui n'étaient pas présentes sur scène, c'était, enfin, dommage. Voilà, en résumé, pour moi, ce serait agréable, beau, mais dommage. Il manque quelque chose pour être totalement transporté. Pour vous donner quelques informations utiles, si vous avez envie de voir cette pièce, malgré tout le mal que j'ai pu dire sur la mise en scène, elle est quand même bien, et ça vaut le coup de la voir, même si elle dure un petit peu longtemps. Au TNP, les représentations sont finies, c'était jusqu'au 15 février, mais il passe aussi alors à la Manufacture de Nancy du 26 au 29 mars, au Théâtre de la Ville à Paris, qui est aussi un très bon théâtre, du 12 au 28 mai, et au Bateau-Feu à Dunkerque du 4 au 6 juin. Donc si vous avez l'occasion, et si vous aimez le roi Lear, et si vous aimez Serge Merlin, allez-y.
chers auditeurs, le moment est déjà venu de refermer cette émission. On vous annonce cependant, pour vous faire saliver, la prochaine programmation que nous allons couvrir. Et alors, attention, il y a des choses à voir, il y a des choses à entendre. On a un mois de mars très chargé, puisque nous allons, si tout se passe bien, avoir un partenariat avec la Biennale. Et nous vous proposerons donc des critiques d'un certain nombre de spectacles qui seront donnés pendant tout le mois de mars, à savoir « I went to the house but did not enter » au TNP, « Chant de guerre » au Théâtre des Célestins, « Hippocampe » qui sera joué à Paris, mais je ne sais pas où, ça ce sont les affaires de Lola, et « Surrogate » au Théâtre de la Croix-Rousse. En avril également, au tout début du mois, nous aurons un spectacle de danse, cette fois c'est bien annoncé comme de la danse, sur le site Dansène, ça s'appelle « Passacaille », moi j'avais lu « Poiscaille » au début, donc après les marcassins, voici la poiscaille, et ce sera début avril. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au ballet. Bref, n'oubliez pas de vivre
en spectateur.